La Bibliothèque nationale de France.
Les contes scintillants, histoire de bijoux. Les joyaux de la marée descendante et montante. Il existe au Japon un dieu très puissant qui règne sur les mers. Il a l'apparence d'un dragon qui, de son palais sous-marin, domine le jeu des marées grâce à deux joyaux aux pouvoirs immenses. Mais il les garde farouchement pour lui, très loin de la convoitise des hommes. Certains racontent qu'il serait pourtant venu au secours d'une impératrice de légende. Voici l'histoire des joyaux de la marée descendante et montante. Un conte qui trouve sa source dans la mythologie japonaise. Chūai était le 14e Mikado du royaume des dieux, au Japon. Sa femme, l'impératrice, était connue sous le nom de Jingu, qui signifie « prouesse de dieu ». Sage et discrète, elle aidait son mari à gouverner le territoire. Lorsqu'une grande rébellion éclata sur l'île du Sud, appelée Kyūshū, le Mikado y conduisit son armée afin de combattre les rebelles. L'impératrice alla avec lui et vécut au camp. Une nuit, alors qu'elle était paisiblement endormie dans sa tente, elle rêva qu'un être divin lui apparut et lui raconta un territoire merveilleux à l'ouest, où l'or, l'argent, les bijoux, les soies et les pierres précieuses abondaient. Le messager céleste lui dit que si elle tentait d'envahir ce pays, elle y parviendrait et tous ses trésors lui appartiendraient alors à elle et au Japon. « Va conquérir cette terre !» lui dit la rayonnante apparition en s'envolant sur un nuage aux teintes violettes. Au petit matin, l'impératrice raconta le songe à son mari et lui conseilla de se préparer à envahir le fastueux état. Mais il ne lui prêta pas attention. Quand elle insista pour satisfaire sa demande, il grimpa au sommet d'une haute montagne et regarda au loin vers le soleil couchant. Or, il n'y aperçut aucun territoire, pas même le moindre pic rocheux. Ainsi, persuadé qu'il n'y avait aucune terre dans cette direction, il redescendit et refusa catégoriquement de mener l'expédition. Peu de temps après, au cours d'une bataille contre les rebelles, il s'écroula sous la pointe d'une flèche et mourut. Alors, les généraux et capitaines de l'armée déclarèrent leur loyauté à l'impératrice et la reconnurent comme seul chef de l'État du Japon. Désormais au règne du pouvoir, elle décida de mener à bien son précieux projet, envahir la terre voisine. Elle invoqua l'ensemble des kami, qui sont des esprits de la nature, et l'ensemble des dieux, ceux des montagnes, des rivières et des plaines, afin de recueillir leurs conseils et leur aide. Tous répondirent à l'appel. Le kami des montagnes lui offrit du bois et du fer pour ses bateaux. Le kami des champs apporta du riz et des céréales en guise de provisions. Le kami des herbes lui donna du chanvre pour les cordages. Le kami des vents lui promit d'ouvrir sa besace et d'en faire souffler la brise qui lui permettrait de voguer jusqu'à là-bas. Tous vinrent, à l'exception d'Isora, le kami du littoral. Elle l'appela à nouveau et attendit toute la nuit, assise au milieu des torches incandescentes destinées à le faire apparaître. Isora était un drôle de paresseux, constamment négligé et débraillé. Aussi, quand il finit par se montrer, au lieu de se présenter dans un kimono raffiné, il émergea des fonds marins recouverts de boue et de vases. Tandis que des coquillages de tout genre s'accrochaient à sa peau et que des algues pendaient de ses cheveux. Il demanda d'un ton bourru pourquoi l'impératrice l'avait appelé. Rends-toi à Ryugu et implore sa majesté Kairi-Uo, le roi dragon du royaume des mers, de me confier les deux joyaux des marais, demanda l'auguste dame. Il s'avérerait que parmi les trésors que renfermait le palais du roi dragon du royaume des mers, deux joyaux avaient d'extraordinaires pouvoirs sur les marais. Ils étaient gros comme des pommes, mais ressemblaient à des abricots. À leur base, trois anneaux étaient gravés. Ils semblaient faits de cristal qui scintillait et miroitait d'étincelants rayons incandescents. Ils chatoyaient et s'embrasaient bel et bien, tel l'œil du dragon ou l'acier ardent du forgeron. Le premier était nommé le joyau de la marée montante, le second le joyau de la marée descendante. Quiconque les possédait avait le pouvoir de faire monter ou descendre les flots immédiatement et selon son bon vouloir, faisant apparaître les terres arides ou bien les immergeant en un claquement de doigts. Isora, en un épouvantable plouf, s'en retourna dans les profondeurs. Il s'aventura de plus en plus bas en direction de Ryugu et se présenta sans attendre auprès de Kairi-Uo. Au nom de l'impératrice, il demanda instamment les deux joyaux des marées. Le roi dragon accepta. Et après avoir ôté les flamboyantes sphères de leur coffret, les déposa dans un énorme coquillage, puis les tendit à Isora, qui ramena les joyaux à Jingu. Celle-ci les rangea dans son corset. L'impératrice prépara alors sa flotte, déterminée à envahir le pays voisin. 3000 navires furent construits et prirent la mer, avec à leur commandement deux vieux kamis au visage ridé et aux longs cheveux gris qui avaient été faits amiraux pour l'occasion. Leur nom était Suwa Daimyojin, le grand illustre, esprit de Suwa, et Sumiyoshi Daimyojin, le kami qui vivait sous le vieux pin de Takasago et présidait les cérémonies nuptiales. La flotte navigua 10 mois durant. Les collines de Izen se firent bientôt avaler par l'horizon, mais à peine eurent-elles disparu qu'une tempête se déchaîna. Les embarcations chancelèrent et se mirent à foncer les unes sur les autres telles des taureaux. La flotte paraissait retenue dans sa course, quand soudain, Kairi-Uo envoya toute une concession d'impressionnants monstres marins et autres poissons qui vinrent soutenir les navires et pousser les poupes de leurs superbes museaux. Les Satsihoko, autrement appelés poissons-dragons, saisirent les cordages à pleines dents et tractèrent la flotte jusqu'à ce que la tempête cesse et que l'océan redevienne calme. Ils regagnèrent ensuite les eaux profondes et disparurent. Les montagnes du pays voisin s'élevaient maintenant au loin. Le long des côtes, les soldats de l'armée adverse étaient rassemblés en groupement. Leurs drapeaux triangulaires à franges, sur lesquels étaient brodés des dragons, s'agitaient sous le vent. Aussitôt, les sentinelles virent-elles la flotte japonaise approcher, qu'elles lancèrent le signal, et la ligne de front navale se mit à avancer, bien décidée à attaquer les Japonais. L'impératrice affecta ses archers à la proue des bateaux et attendit que les ennemis approchent. Quand ils furent à une distance d'environ 100 épées, elle sortit le joyau de la marée descendante de son corset et le jeta dans la mer. Il incendia le ciel quelque temps, mais à peine eut-il touché la surface de l'eau que l'océan s'évanouit au-dessous des vaisseaux rivaux, les laissant échouer sur le sol aride. Les habitants, pensant qu'il s'agissait d'un raz de marée et persuadés que les bateaux japonais étaient à contre-courant, eux aussi sans défense, sautèrent de leur galère et se précipitèrent sur le sable, prêts à combattre. Vociférant, toute l'âme dehors, ils étaient effrayants. Quand les adversaires furent à la portée de leurs arcs, les archers japonais envoyèrent des salves de flèches à double tête ou à triple pointe et en tuèrent des centaines. Mais cela ne les arrêta pas. Et ces derniers finirent par atteindre les navires japonais. L'impératrice choisit ce moment-là pour se saisir du joyau de la marée montante et le jeter dans les flots. En un rien de temps, l'océan se déploya en une vague de plusieurs mètres de hauteur et engloutit l'armée rivale, noyant quasiment jusqu'au dernier homme. Sur les dizaines de milliers de soldats, seuls quelques chanceux survécurent. Il ne fallut pas longtemps pour que les armures de fer de ces guerriers les entraînassent dans les vagues bouillonnantes, où les fils s'échouaient sur la rive, tels des morceaux de bois flottants. L'armée japonaise débarqua sans encombre et conquit le pays sans difficulté. Le roi du pays conquis se rendit et offrit à l'impératrice les quantités de soie, bijoux, miroirs, livres, tableaux, kimonos, peaux de tigre et trésors d'or et d'argent qu'il possédait. Le butin dut être chargé sur 18 bateaux et l'armée japonaise retourna triomphante sur ses terres natales. Les joyaux de la marée montante et descendante, un conte traditionnel japonais interprété par Mathieu Buscato et traduit par Camille Lefebvre à partir de l'ouvrage Japanese Fairy World, rassemblant plusieurs histoires recueillies par William Elliott Griffiths, puis traduites en anglais et publiées en 1880. Les contes scintillants, histoires de bijoux. Une série originale de la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec l'École des arts joailliers, soutenue par Van Cleef & Arpels. Coordination scientifique, Charline Coupeau. Coordination éditoriale, Constance Esposito. Réalisation et générique original, David Federman.